Bonjour, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Angleco.
Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France mais aussi dans le reste du monde. Alors, la plupart des candidats à la présidentielle exaltent l'état stratège, c'est-à-dire le retour de la politique industrielle, avec l'engagement de fonds publics pour développer l'innovation dans les secteurs critiques, comme la transition énergétique ou les traitements futurs pour la santé. Est-ce que ça peut marcher, François ?
C'est vrai qu'il y a une unanimité incroyable. C'est un sujet complètement consensuel. De la droite à la gauche du spectre politique, les candidats disent tous la même chose. Il faut remettre en place l'état stratège. Bon, ça correspond à une histoire, à une identité bien française. Hein. Ça date de Colbert, donc ça date pas d'hier. Et puis, on attribue à la politique industrielle de l'État les succès glorieux de l'industrie française. Le nucléaire, Airbus, on mélange un peu tout d'ailleurs, hein, parce qu'Airbus, c'est un peu français. Enfin, c'est pas seulement français, c'est évidemment une initiative européenne. En réalité, on oublie aussi les échecs, hein, parce qu'il y en a eu. J'en cite pour mémoire quelques-uns. Le plan calcul lancé par De Gaulle, il s'agit de créer un ordinateur à la française, désastre. Le plan informatique pour tous, où on a soutenu Thomson, et à l'époque des ordinateurs qui s'appelaient le MO5 et le TO7, on en a acheté des centaines de milliers pour les écoles, ça ne marchait pas. Mentionnons aussi la faillite du Crédit Lyonnais, banque publique, hein, qui était destinée justement à financer l'innovation française, la faillite d'Areva quand même, qui a coûté plusieurs milliards d'euros aux contribuables. Areva, c'était le géant du nucléaire. Valérie Pécresse a une formule assez intéressante d'ailleurs. Quand on évoquait devant elle les grands projets publics, elle disait, vous savez, les grands projets, regardez, il y en a deux qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à émerger. C'est Flamanville, le dernier réacteur nucléaire, l'EPR, qui a quand même quelques années et quelques milliards de retard, et puis Ariane 6, qui, dit-elle, sera obsolète lorsqu'elle sera terminée. Le fait que ça soit l'État qui décide, en réalité, n'est absolument pas une protection contre l'échec. L'argument traditionnel, et notamment à gauche, c'est de dire, ah bah oui, warf, l'entreprise et les entrepreneurs, ils ne pensent qu'à l'argent, donc ils sont déterminés par le court terme. Pardon, mais les décideurs politiques le sont au moins autant, parce qu'ils pensent à l'élection. Hein, et au total, ça peut biaiser leurs décisions de façon au moins aussi problématique que celle de l'entreprise.
Mais ces réussites industrielles pilotées par l'État, elles ont pourtant bien existé.
Oui, c'est vrai, mais avec des particularités. C'est vrai que la première, c'est qu'elles réussissent bien dans les périodes de rattrapage, quand la technologie est disponible et qu'il faut l'adapter. Là, l'État est probablement le meilleur ordonnateur pour coordonner justement les efforts de la nation. C'est ce qu'on a fait pendant les 30 Glorieuses. Et par exemple, le nucléaire, il faut rappeler qu'on utilise une licence américaine, hein, celle de Westinghouse. C'est ce qu'a fait la Chine dans les années 90 et 2000, c'est ce qu'a fait la Corée dans les années 70 et 80, le Japon dans les années 50, 60, 70. Ça, c'est la première condition. Dans les moments où, justement, on est sur la frontière technologique comme aujourd'hui, c'est plus difficile. La seconde condition, c'est que l'État doit être à la fois l'initiateur et le client. C'est comme ça que ça a bien marché en France. C'est-à-dire que sur le téléphone, c'est l'État qui commande les centraux téléphoniques, les réseaux, etc. Du coup, il y a une espèce d'osmose entre le producteur et le consommateur. Idem pour le TGV, qu'on n'a jamais réussi à vendre à l'étranger, qui a été commandé par un organisme d'État français, la SNCF. Satellite, c'est la même chose. C'est Ariane, initié par une structure paraétatique, envoyait des satellites pour le compte de, à l'époque, le ministère des PTT ou de France Télécom public. Dès que le marché des télécoms a explosé, c'est-à-dire qu'il s'est privatisé, qu'il s'est déréglementé, Ariane a commencé à perdre un peu des points. Donc, quand il faut vendre au marché, l'État est quand même beaucoup moins efficace, c'est pas le meilleur pilote. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque des heures glorieuses de notre politique industrielle, il y avait une osmose importante entre les dirigeants des grands groupes industriels et les pilotes de l'État. C'était les hauts fonctionnaires qui passaient de l'un à l'autre, qui se connaissaient bien, notamment les liens avec la fameuse CGE, Compagnie Générale d'Électricité, qui a donné naissance après à Alcatel, aujourd'hui en faillite ou quasiment, qui a été repris par Nokia, et puis Alstom, qui est aussi quasiment en faillite, repris par General Electric, au moins pour une part. Il reste un Alstom en matière de transport en commun qui lui va bien. À l'époque, la CGE, c'était la 15e entreprise mondiale. Donc, on avait cette puissance de feu industrielle.
Mais c'est à la suite du coup de ces échecs qu'on a abandonné la politique industrielle, François ?
Non. En fait, pas du tout. Ça a été le tournant des années 90. L'Europe, le grand marché, où on a considéré que la politique industrielle était nulle et non avenue, sous influence britannique. Et avec la montée en puissance de la fameuse DG4 à Bruxelles, qui était la direction générale libérale de la concurrence, tout soutien à l'industrie était vu comme une manœuvre anti-concurrence du nationalisme économique et donc réprouvable et à réprouver. On s'est dit, en fait, la politique industrielle aujourd'hui, c'est le travail du jardinier. Il faut entretenir, mettre de l'engrais, travailler les fondamentaux, et sur ce terrain naîtront les innovations de demain. Il ne faut pas aller plus loin.
Et alors, cette nouvelle stratégie, elle a marché, François ?
Non, en France, pas du tout. D'ailleurs, les années 90, vous voyez que ça a correspondu à la grande vague de délocalisation, parce que la Chine s'est ouverte à ce moment-là, l'Europe de l'Est a rejoint l'Europe, au point qu'on s'est complètement dévitalisé, y compris dans des secteurs naguère forts, comme les télécoms et l'automobile. L'automobile, je rappelle quand même qu'au début des années 2000, on fabriquait près de 4 millions de véhicules en France, c'est moins de 2 fois moins aujourd'hui, 20 ans après. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des augmentations d'impôts, il y a eu les 35 heures, on a fait de la contre-politique industrielle. D'où toutes les tentatives pour rétablir la France dans l'industrie, avec une succession de plans publics et une impressionnante liste de milliards. Il y a eu le programme d'investissement d'avenir de Sarkozy, lancé en 2009, et puis tous ses enfants. À l'époque, le PIA, programme d'investissement, c'était 57 milliards. Le plan de relance de Macron, c'était 100 milliards. Le plan qui a été annoncé la semaine dernière, c'est 30. Vous voyez qu'on n'est pas loin de 200 milliards quand on additionne tout. C'est énorme.
Ces chiffres donnent le tournis d'ailleurs. Quel bilan peut-on faire de ces initiatives ?
Médiocre, jusqu'ici, pour la partie qu'on peut analyser, parce que bon nombre de milliards sont trop récents pour avoir agi et pour pouvoir être évalués. Mais le PIA, il a quand même 10 ans. Notons quand même que depuis 10 ans, l'innovation, elle se passe quand même largement aux États-Unis. Les GAFA, c'est aux États-Unis qui sont nés, et en Chine, il faut le dire, peu en Europe et pas en France.
Ça veut dire que l'État ne parvient pas à susciter l'innovation, même en mettant des milliards sur la table ?
Probablement. Le personnage clé de l'innovation, c'est l'entrepreneur. Il faut revenir à la base. C'est Schumpeter, l'économiste autrichien, qui l'a théorisé. C'est lui qui est un peu maboule, d'un certain côté, qui veut passer là où personne ne passe, et qui se dit « je vais y arriver ». Il est financé par d'autres maboules, qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner leur vie. C'est vrai que le type qui invente Google, il trouve de l'argent parce que quelqu'un y croit. Ses produits sont achetés par de nouveaux maboules qui disent « c'est nouveau, mais ça nous intéresse ». Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de déterminants qui sont culturels et qu'on a trouvé tout ça dans un écosystème comme la Silicon Valley. Après, vous savez, finalement, c'est très difficile de prévoir parce qu'aujourd'hui, le concurrent d'Air France le plus douloureux, c'est pas les low cost, c'est Zoom, c'est le logiciel Zoom qui permet aux cadres de se parler à distance sans avoir à prendre l'avion. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, il y a eu quelques inventeurs qui se sont dit « tiens, on va mettre en place un logiciel qui permet aux gens de se voir en temps réel, pratique, pas cher, même gratuit ». L'État n'est pas capable de prévoir ça. Il faut l'imagination un peu délirante d'un entrepreneur, et c'est ça qui, non pas qui nous manque, on en a, mais qui au moins fait que...
Il faut un peu de folie, quoi.
Oui, il faut un peu de folie dans l'innovation, c'est certain. Regardez Elon Musk et ses fusées réutilisables. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. C'est aujourd'hui devenu le standard, au point que Ariane se dit, on va faire un lanceur réutilisable. Mais on y pense 10 ans après les autres. Alors toute la difficulté, c'est qu'évidemment, tout ça ne se passe pas complètement sans l'État. Quand Musk réussit, c'est des commandes du gouvernement américain pour lancer des satellites, probablement à des prix très élevés, pour soutenir l'initiative de SpaceX, de Musk. Et Musk utilise un moteur qui a été développé par la NASA, qui était sur l'étagère et qui prenait la poussière. Et il trouve ça, on lui donne de façon presque gratuite. Donc, c'est les partisans de l'intervention publique qui disent « ah bah oui, ouarf, regardez, même Elon Musk, il a bénéficié de l'État, c'est bien la preuve qu'il faut mettre des milliards. » Oui, c'est bien la preuve qu'il faut aussi Elon Musk. Et que la vérité, c'est l'interaction entre les deux. Et c'est la difficulté qu'on a, nous, à régler cette interaction. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est le vaccin. Ça nous donne quand même des clés pour agir. Les deux vaccins ARN messagers qui nous ont fait gagner un temps considérable, la vraie révolution technologique liée à la vaccination, ça provient de deux entreprises. C'est une petite start-up montée en Allemagne, qui s'est associée avec Pfizer, le gros labo américain, et une petite start-up aux États-Unis, dirigée d'ailleurs par un Français, qui s'appelle Moderna. Dans les deux cas, l'innovation vient de l'université et des laboratoires. Moderna, c'est des gens du MIT, qui ont traversé la route, parce que Moderna est installée à Boston aussi, comme le MIT, et qui se sont dit, on peut faire une entreprise avec la découverte sur laquelle nous avions travaillé. En Allemagne, c'est l'université de Mayence, où un couple d'immigrés, d'ailleurs, vivant en Allemagne depuis longtemps, s'est dit la même chose. Donc, la chose a éclos dans un foyer universitaire et un laboratoire pour après se transposer dans l'économie de marché. L'étape qui a été évidemment tout aussi importante, c'est l'intervention de l'État américain qui, grâce à Trump, hein, on l'oublie toujours, mais a mis des milliards sur la table via une agence fédérale qui s'appelle la BARDA. Et parce que la BARDA disait, il nous faut un vaccin, donc on le veut dans un an, voilà X milliards, Moderna, le patron m'a raconté, Stéphane Bancel, hein, il m'a dit, mais on avait à peine ouvert la bouche, on avait déjà plus d'un milliard. Parce que l'État considérait que c'était indispensable. Donc, naissance dans un labo, développement dans un environnement start-up financé par le capital risque, avec quelques difficultés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de perspectives, et puis accélération par le soutien de l'État. Voilà un peu le cocktail magique. Ça, c'est de la politique industrielle, je dirais, super efficace, qui a permis de raccourcir les délais. Ça nous montre quand même que l'une des clés, c'est le lien entre université et entreprise, et c'est un très gros sujet en France parce qu'il y a des réticences culturelles importantes. Le monde de l'université ne veut pas de l'entreprise, pour beaucoup. Hein. Ils considèrent que c'est le diable, que finalement c'est dévoyer la recherche que d'en faire une exploitation commerciale. Puis à l'inverse, l'entreprise n'est probablement pas assez attentive à la recherche fondamentale française.
Et en même temps, les universités américaines font rêver.
C'est vrai.
On les cite tout le temps.
Oui, oui, absolument. Et de ce point de vue, elles ont un pouvoir d'attraction beaucoup plus important. Elles ont des connexions avec le monde du business beaucoup plus important. C'est certain, tout cet écosystème, nous ne l'avons pas ou pas encore. Bon, ça commence à changer un petit peu. Cette année, notamment, il y a eu un financement pour les startups très important. Il y a certaines innovations qui sont en lien, justement, avec le pôle technologique de Kroll, etc., pour les nanotechnologies. Mais enfin, c'est encore assez modeste. La solution, ça serait probablement d'être vigilant là-dessus, et puis la création d'une agence nationale type BARDA, c'est-à-dire qui puisse justement identifier les projets et puis les financer le cas échéant, avec le risque qu'on mette, on jette de l'argent à la rivière quelquefois. Hein. Il faut noter quand même que dans le plan Macron de 30 milliards, il y a ce projet-là. On en attend la concrétisation. Ils ont annoncé les milliards avant de dire comment ils allaient les dépenser, mais que l'objectif, c'est justement d'arriver à un dispositif de ce type-là, partant du principe que l'innovation n'en est plus dans les grosses structures. Autrement dit, si on veut faire du nucléaire, c'est pas forcément à la porte d'EDF qu'il faut frapper, parce que EDF aura toujours tendance à revenir sur son propre projet qui est l'EPR, qui est quand même en partie ensablé et qui a mis beaucoup plus de temps. Donc, de ce point de vue, il y a peut-être une prise de conscience française qui augure d'un avenir un peu moins décevant pour la politique industrielle.
Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Écho. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.